Limite.
Quelle est ta définition du réel?
C'est comme les maillons d'une chaîne.
Le point culminant de votre civilisation.
Préparez très fort, protéger ce qu'on a.
Bravo, grand bienfaiteur de l'humanité.
On trouve en soi une force que l'on ne soupçonnait pas.
On ne peut pas résoudre un problème.
Exponential growth will take us to the limit.
Limite.
Very soon.
Avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème.
Quel plaisir et quel bonheur d'échanger avec Julia Steinberger, ou Steinberger, ça dépend un petit peu d'où vous venez. Elle a suivi une formation en physique aux États-Unis, avec un bachelor à l'université de Brown et puis un doctorat au MIT en 2004. Professeure à l'université de Leeds, puis celle de Lausanne, elle est spécialiste des enjeux sociétaux liés aux impacts du dérèglement climatique. Cette conversation avec Julia Steinberger a eu lieu au Parlement européen lors du cycle de conférences Beyond Growth. Nous parlons d'économie écologique, de la science et de la politique, des systèmes de croyance et de pouvoir, de l'imaginaire, mais également de la place que doivent occuper aujourd'hui les scientifiques dans un monde où il y a énormément de fausses informations. Julia Steinberger est réputée pour ne pas avoir sa langue dans sa poche et d'avoir déjà été arrêtée par la police lors de plusieurs manifestations. Est-ce que la science doit rentrer en rébellion? Poser la question, c'est sans doute déjà y répondre.
Limite.
Quelle est ta définition du réel?
Bonjour Julia, comment tu vas?
Bonjour Vince, je vais plutôt bien. C'est un chouette événement.
Ah, c'est sûr, on est ici à la conférence Beyond Growth, organisée par le Parlement européen pour enfin aborder des questions de vous voyez les caches, hein, de survie de l'espèce, hein, de où est-ce qu'on est sur Terre et vers où on va en matière d'habitabilité de la Terre et de qu'est-ce qu'on fait avec ça. Moi, je te souhaite à toi la bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Limite. C'est vraiment un honneur de te recevoir, tout comme un honneur à vous aussi, que vous soyez de plus en plus nombreux à vous abonner et regarder cette chaîne. D'ailleurs, si vous venez d'arriver, ben, bienvenue à vous. Si l'algorithme vous a amené ici par hasard, nous parlons de limites planétaires. On essaye de rendre accessibles tous ces trucs qui sont parfois un petit peu compliqués. Abonnez-vous, bien sûr. Likez, commentez, c'est très important. Et si vous voulez nous soutenir sur Tipeee, vous avez les liens en description. On va se faire vraiment plaisir aujourd'hui parce que toi, de ton côté, tu es quelqu'un qui a plusieurs casquettes. Et c'est ça que j'aime bien. Et on en parlait juste avant d'enregistrer, c'est les scientifiques qui sortent enfin, la révolution des scientifiques, qui sortent enfin de leur posture, on parlait de ça, de la posture blouse blanche. Je voulais justement avoir ton avis, est-ce que les scientifiques ne sont pas assez politisés? Est-ce qu'ils ne prennent pas suffisamment le taureau par les cornes? Parce que souvent, quand on les écoute, c'est très neutre, très froid, et on se dit, bon, ben, il n'y a pas de problème. Un scientifique peut m'annoncer quelque chose de grave, mais il le dit tellement avec des termes compliqués et complexes, et avec beaucoup de recul et de neutralité, qu'au final, on se dit, bon, ben, next. Pas grave, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Absolument. Et je crois que c'est vraiment une erreur pratique et stratégique énorme. C'est-à-dire que notre posture scientifique, elle ne vient pas de nulle part. Elle a un parcours historique. Et ce parcours historique, il a à voir avec quelle était la place de la science par rapport à l'Église catholique, quelle était la place de la science par rapport au roi. Donc les scientifiques, ils avaient le droit de faire leur boulot pour un temps qu'ils n'embêtent pas les vrais pouvoirs. Le problème, c'est que maintenant, notre rôle scientifique, nous avons la responsabilité de la connaissance de la fin de la survivabilité de la planète. C'est-à-dire que nous sommes en train, sur notre trajectoire actuelle, de détruire la planète dans un horizon de temps, de l'espérance de vie, de toi, des autres personnes que je vois autour de moi dans la pièce qui font partie de cet effort médiatique, certainement des personnes qui regardent ta chaîne. Et donc nous avons cette connaissance archi-grave, et cette connaissance archi-grave, nous avons une responsabilité d'aller à l'encontre de pouvoirs existants pour la communiquer, parce que la raison pour laquelle nous sommes dans cette position archigrave, c'est parce qu'il y a des forces de pouvoir politiques, économiques et industrielles qui nous poussent dans cette direction atroce. Donc si les scientifiques, ils ont simplement la connaissance et qu'ils disent simplement « Écoutez, les gars, ben, la maison, elle est en train de brûler. J'ai écrit un article dessus. Hein. Je le mets dans une revue que personne ne va lire. » Et moi, j'ai fait mon boulot. Ça, c'est de l'irresponsabilité totale pour moi. C'est-à-dire que nous avons une responsabilité de notre connaissance d'intervenir dans les systèmes de pouvoir pour faire en sorte de prévenir le désastre qui est en train de se produire autour de nous.
Alors, merci vraiment de pouvoir échanger là-dessus. Toi, dans ton domaine de la science, est-ce que tu peux nous dire que tu es physicienne de base?
De base, ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Oui, de base, je suis physicienne. Et ce que je fais maintenant, c'est de l'économie écologique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut repenser les fonctionnements de l'économie sans détruire la société avec des inégalités incroyables, c'est-à-dire que les gens ont un très mauvais niveau de vie selon leur position économique, et sans détruire la planète. Donc ça, c'est le dilemme, le but de l'écologie économique. Et avec les recherches qu'on a faites, donc, c'est-à-dire qu'on est assez empêché de fonctionner par l'économie mainstream, mais avec les recherches que nous sommes en train de faire, avec certains nouveaux projets que nous avons, on arrive vraiment à apprendre beaucoup plus de comment est-ce qu'on pourrait fonctionner socialement, avoir du bon travail, un bon niveau de vie et ne pas détruire notre environnement. Donc je pense que ça, c'est quelque chose, moi ça me motive en tout cas.
Et tu es aussi très motivé parce que tu es auteur principal pour le GIEC, rapport groupe 3,
oui.
Qui lui consiste à parler de l'adaptation, c'est ça ?
C'est les solutions, c'est-à-dire comment on atténue le réchauffement climatique, c'est comment est-ce qu'on stoppe l'utilisation des énergies fossiles et qu'on arrête d'émettre autant de gaz à effet de serre.
Et comment ça se passe là quand tu discutes avec toutes ces personnes, puisque vous compilez toute la littérature scientifique autour du climat, et donc du coup autour, donc le nom exact c'est mitigation je crois.
Oui, mitigation, donc atténuation en français.
Voilà, oui. Sur l'atténuation, vous échangez, il y a un vrai travail d'orfèvre qui est effectué. C'est quoi l'état d'esprit des autres scientifiques qui écrivent les rapports ?
Alors, dans les rapports du GIEC, il y a quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que nous avons certains contenus, donc on se distribue les contenus par chapitre. Moi, j'étais dans le troisième chapitre, j'ai aussi contribué au cinquième. Et nous devons faire simplement de la revue de littérature. Donc, il faut essayer de trouver de multiples études, toutes les études qui ont été écrites sur certains thèmes, et en faire des résumés très précis. Ce que nous discutons pendant les réunions, c'est « bon, bah, que j'ai combien de places ? Moi, je suis en train d'orienter ça, moi, je suis en train de trouver ça ». Je pense que ce nombre d'articles que je vois dans la littérature, ce que j'en ressors, ça que c'est quelque chose, c'est une trouvaille qu'il faut qu'on ramène jusqu'au résumé pour décideurs. Donc ça, c'est une partie du travail, c'est les résumés de toute la littérature scientifique des 6-7 dernières années. Et l'autre point, c'est OK, mais qu'est-ce qui en sort? Quels sont les messages principaux? Et ça, il faut essayer de les faire remonter aussi loin que possible dans le rapport jusqu'au résumé pour décideurs.
Et quels sont justement ces fameux messages principaux du coup?
Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'ai été responsable il y en a plusieurs du rapport du GIEC de façon générale. Alors, du rapport du GIEC de façon générale, du troisième groupe de travail, c'est... je peux commencer avec le premier groupe de travail. C'est le réchauffement climatique est réel. On y contribue à 100% en tant qu'activité humaine. Les impacts sont extrêmement graves. Nous sommes sur une trajectoire qui va vers les 3 degrés. Déjà, au-delà des 2 degrés, nous savons que nous n'arriverons pas à nous adapter aux impacts. Donc ça, c'est nouveau.
Qu'est-ce que ça veut dire, on n'arrivera pas à s'adapter aux impacts?
C'est-à-dire qu'on pensait, et ça, je suis désolée, les collègues ont eu tort, hein, il faut pas qu'on dise les choses autrement. Dans les précédents rapports du GIEC, l'état de la science, c'était que 2 degrés de réchauffement, ça paraît petit, un nombre, ça paraît petit. Et les gens pensaient sans savoir que ce serait un niveau de réchauffement auquel on arriverait à s'adapter, qu'on arriverait à vivre avec. Alors qu'avec... la connaissance plus précise sur les impacts réels du réchauffement, que nous voyons déjà autour de nous, ils sont d'habitude pires que ce qui était attendu à ce niveau de réchauffement-ci. Nous sommes autour des 1,2, 1,3 degrés actuellement de réchauffement. Et ce que les collègues ont découvert, c'est qu'au-delà de 2 degrés, on n'arrive tout simplement pas à s'adapter. Ça veut dire que les mesures de précaution sont inadéquates, largement inadéquates.
Partout sur Terre.
Partout sur Terre.
Y compris dans les pays riches qui ont suffisamment de puissance et d'énergie.
Y compris dans les pays riches. C'est-à-dire que les solutions technologiques auxquelles on pense pouvoir faire recours pour s'adapter au réchauffement climatique ne nous protégeront pas à 2 degrés. Elles nous protégeront un peu, mais de loin, pas entièrement. 1,5 degré, il y a déjà 1,2 degré, nous avons des morts, des tempêtes, des ouragans, des choses extrêmes qui se passent, des sécheresses, des famines. Ça ne va faire que s'empirer de façon assez exponentielle, en fait, avec chaque... petite fraction de réchauffement en plus. Donc voilà, donc ça c'était un des grands messages du deuxième rapport du GIEC, du deuxième groupe de travail, qu'au-delà de 2 degrés, c'est mission impossible pour l'adaptation. Ça ne veut pas dire que tout le monde va mourir, de loin pas, mais ça veut dire que la vie va devenir, beaucoup de gens vont mourir et que la vie va devenir quand même assez impossible pour, beaucoup plus difficile pour tout le monde.
Ce qui entraîne des pressions et des conflits à un moment donné aussi.
Alors ça, c'est clair. Donc ça, et ça, on est, de toute façon, nous sommes déjà à l'aube de ce monde-là. Nous le voyons autour de nous. Donc ça, c'était le deuxième rapport du GIEC. C'était probablement le rapport le plus important qui est sorti pendant ce sixième effort du GIEC. Et malheureusement, il a été complètement oublié par les médias parce que la guerre en Ukraine a été déclenchée exactement au même moment qu'il est sorti. Donc malheureusement, ce message-là n'est pas du tout sorti. Le fait que ces 2 degrés qu'on pensait être plus ou moins sûrs, qu'on y arriverait les doigts dans le nez à s'adapter, l'adaptation est impossible. Ça, c'est un nouveau message qui n'est pas encore passé dans les esprits. Donc si tu n'as pas encore eu quelqu'un du deuxième groupe de travail, je peux te conseiller des collègues, absolument. Et le troisième groupe de travail, c'est que les solutions existent, que nous y arriverons, mais qu'on arrive beaucoup plus facilement si nous réduisons nos demandes énergétiques. Donc si on réduit notre utilisation de ressources, on arrive à substituer notre énergie avec des énergies renouvelables, on arrive à substituer notre nourriture basée sur des produits animaux, sur une alimentation basée sur des plantes. Donc on y arrive avec un bon niveau de vie possible pour tous sur Terre, y compris pour les personnes dans les pays en voie de développement, y compris avec la croissance démographique. Donc ça, c'était plutôt la bonne nouvelle. Par contre, ça demande une transformation immédiate, radicale, de tous les secteurs de production et consommation. Ça veut dire de nos systèmes économiques. Et c'est pour ça que ces discussions qu'on a actuellement autour d'alternatives économiques sont très, très importantes.
Oui, parce qu'il y a une partie du secteur économique et même politique qui ne veut pas toucher à ça.
Oui.
Une forme de construit, de croyance. C'est un système de croyance qui affronte un autre.
Alors,
ou c'est plus que ça?
C'est un système de croyance et de pouvoir, les deux ensemble. C'est-à-dire que le pouvoir qui existe, donc c'était les industries dominantes qui sont toujours dominantes parmi nous du 20e et maintenant du 21e siècle, se sont construits un système de croyance, en fait une espèce de religion, qui leur donne le roi avait le droit divin, c'est-à-dire le roi, il se donnait, le bon Dieu est d'accord avec tout ce que je fais. Et maintenant, avec ces industries, c'est la croissance économique est d'accord avec tout ce que je fais. Et donc, on se donne des croyances autour du fonctionnement du marché, que le marché a toujours raison, etc. Mais en fait, ce sont des croyances religieuses. L'économie, c'est une construction humaine, c'est une construction sociale. C'est quelque chose que toi, moi, les autres personnes, nous créons, nous. Il n'y a pas de loi naturelle de l'économie. Moi, je suis physicienne, nous avons des lois de la physique. L'économie, c'est une création humaine, c'est une création sociale.
Qui peut être transformée et réadaptée.
Nous avons nos droits de la transformer.
Au gré des besoins, quoi. Mmh.
Et de ne pas, de ne pas souffrir sous ce dieu en disant « Ok, mais le dieu économique veut que nous sautions par-dessus la falaise, allons-y joyeusement. »
Comment t'expliques cette réactance, cette capacité en fait à défendre bec et ongle quelque chose? Et, parce que pendant tout un temps, je pensais que c'était générationnel. Entre guillemets, les boomers qui ont vécu les 30 glorieuses et qui veulent maintenir ce qui leur a permis d'augmenter leur espérance de vie, de devenir très obèses aussi, les taux d'obésité dans le monde entier sont en pleine explosion, mais bref, qui leur a permis en tout cas de vivre plus longtemps, d'avoir une meilleure santé et de faire activer un peu toutes les dopamines en achetant une voiture de course, en vivant des expériences hors du commun dans toute l'histoire de l'humanité. Mais non, mais j'ai vu qu'il y avait des jeunes aussi... Qui croient à ça. Et alors je me pose la question, c'est quoi? C'est encore parce que nos strates de communication, de médias, d'éducation, les écoles fonctionnent encore avec ce paradigme-là? Ou alors en fait que vraiment il y a un trauma que l'être humain a et sur lequel il n'arrive pas à passer au-delà? Je sais pas, parce que je connais des peuples autochtones qui n'ont pas du tout ce problème-là. Hein, mais...
Exactement. Non, alors pour moi il s'agit vraiment d'un système de croyance, d'une instauration d'une culture. Hein. Donc toi, tu es dans le milieu de la culture, tu connais mieux que moi, c'est quelque chose qui se construit aussi, qui se fait. Et ça, c'est une culture qui a été créée il y a maintenant un siècle environ, la création de la culture de la société de la consommation. Et cette culture a pu s'établir, pas uniquement parce que les personnes le voulaient, par exemple les boomers le voulaient, ce désir a été créé aussi. Il fallait créer des désirs avec l'industrie de la pub, etc. Donc c'est tout cet essor de la manipulation psychologique des individus pour rentrer dans le cadre de la société de consommation qui est parmi nous depuis un siècle et qui s'accompagne d'un carcan de pensée, en fait, autour de l'économie, autour du fonctionnement de nos sociétés, c'est-à-dire si nous ne consommons pas, si nous ne sommes pas des bons consommateurs, tout va s'effondrer, on n'aura plus de travail, on n'aura plus d'argent, ça va être la misère, ça va être la crise, donc surtout ne repensons pas ce cadre. Et ce carcan de pensée, en fait, il est... Non seulement il s'est établi, il a gagné, il est dominant, mais en plus, il a cherché délibérément à tuer toutes les alternatives, y compris les peuples autochtones que nous voyons encore maintenant se faire dominer, exploiter, trucider.
Massacrer totalement. Bah,
quand ils vont à l'encontre de tout cet extractivisme, etc. Mais aussi dans les universités, aussi dans les écoles, aussi dans la culture générale. Donc, parce que ça fait un siècle que ces idées dominent, où nous sommes dans une espèce de désert de la pensée, désert de l'imagination, où il faut absolument réfléchir, repenser, aller chercher les alternatives. Certaines sont historiques, certaines sont du domaine de la science-fiction, certaines sont du domaine justement des peuples autochtones, des minorités qui ont des autres façons de penser, des autres priorités, des autres façons de fonctionner. Et il faut absolument réouvrir cette imagination. Et ça, c'est un de nos jobs les plus importants. Donc, des fois, ça fait bizarre d'entendre des scientifiques qui disent qu'il faut apprendre à imaginer, mais l'imagination, c'est la partie du cerveau la plus importante. Si on peut imaginer quelque chose d'alternatif, on peut réfléchir, OK, comment est-ce qu'on y arrive? Est-ce que c'est plausible? Est-ce que je peux tester? C'est là que la créativité et l'inventivité arrivent. Et c'est ça qu'il faudrait apprendre. Comment travailler ensemble pour faire de l'avenir quelque chose de très différent de notre passé.
J'ai la sensation que nous, en tant qu'êtres humains, on s'est, grâce à cette croissance, on va dire grâce parce qu'elle a apporté beaucoup de choses positives pendant tout un temps, et avec toutes les problématiques, hein, je veux dire, on est d'accord que l'intensité aujourd'hui a complètement dépassé les capacités des espèces vivantes et de la biosphère d'encaisser le choc, et qu'on va, on en paye les pots cassés aujourd'hui. Mais qu'aussi, c'est une sorte d'écocentrisme à son paroxysme, ou un état de conscience pas suffisamment élevé, mais qui a fait que on s'est complètement abstrait des hétéronomies. C'est comme si les lois de la physique, et c'est ton métier, hein, c'est comme si tout d'un coup, elles n'existaient plus parce qu'on a réussi tellement à les repousser loin grâce aux énergies fossiles. C'est quand même incroyable que c'est quand même aussi un dénominateur commun absolument à toutes ces prouesses technologiques et de prouesses de puissance et de force qu'on a pu faire peser sur le monde. Mais qu'on a l'impression qu'en fait, c'est plus l'humain qui a réussi, l'homme avec un grand H, qui a réussi à le faire, plutôt qu'en fait, les énergies et ce que la nature lui a donné. Et que du coup, on est sorti de ce cadre du vivant, qui fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué de devoir sensibiliser quelqu'un à la coupe d'un arbre. C'est compliqué de expliquer à quelqu'un, il y a 20 millions d'oiseaux qui sont morts, et dire, ah bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme si on ne se rendait pas compte qu'on voyait 20 millions d'oiseaux voler dans le ciel et qui tombaient tous, ce serait choquant. Ce serait une vision apocalyptique. On penserait aux 4 cavaliers de l'apocalypse qui débarqueraient si on est témoin de ça. Mais pourtant, c'est ce qui se passe, en données chiffrées. C'est quoi? Est-ce que l'humain a besoin de le percevoir de ses sens pour comprendre la gravité de la situation? En sachant que les personnes, les principaux décideurs du monde, percevront de leur sens la gravité de la situation que lorsque le reste du monde sera dans un état cataclysmique, quoi.
Oui, alors je pense que là, c'est... Alors je vais faire de la pub, si je peux me permettre de faire
t'es
de la
toi,
pub.
T'es chez toi, t'es chez toi.
Merci. Alors il y a un livre magnifique qui explique beaucoup mieux que tout ce que je vais pouvoir faire, en fait, ce déroulement historique, pourquoi nous sommes dans ce moment, qui s'appelle La malédiction de la muscade. L'auteur s'appelle Amitav Ghosh, et je le recommande à tout le monde. Il est actuellement disponible en pré-vente, parce qu'il est en train de se faire traduire en français. Donc, peut-être que maintenant, ça c'était il y a quelques semaines. Donc il va apparaître en tout cas avant l'été. Et cette malédiction de la muscade, ça, en fait, ça explique l'histoire du colonialisme, ça explique l'histoire du capitalisme depuis 500 ans. Donc notre histoire, elle date. Et nous avons été retournés contre nous-mêmes. Donc quand tu dis est-ce que c'est l'humanité, la réponse est non. C'est une petite minorité de pouvoir qui a réussi à détruire les conditions de vie, à faire de la destruction des conditions de vie un mécanisme de profit et d'accumulation de richesses. Et ce mécanisme est toujours parmi nous.
Et favorise le même groupe, en quelque sorte.
Et favorise toujours le même groupe, toujours un petit peu les... C'est pas toujours les mêmes personnes, mais c'est toujours une petite minorité qui profite. Et ça, c'est pas une conspiration ou quoi que ce soit. C'est vraiment explicitement ce qui se passe dans nos économies. Ça a commencé avec le colonialisme. Mais ça continue à l'intérieur de nos sociétés. Donc actuellement, nous sommes dans des systèmes financiers où, moi je suis entre autres états-unienne, ce qui est quand même un pays assez extrême dans cette direction, où pour pouvoir avoir accès aux moyens de vie, il faut s'endetter, il faut rentrer dans des mécanismes de dépendance à la finance,
et puis dont
les personnes ne sortiront jamais. Donc on essaie de s'éduquer pour avoir une meilleure vie, mais ensuite on a des centaines de milliers de dollars de dettes pour son éducation, etc. Et ça continue pour tout comme ça. Et donc ce mécanisme-là, ce type d'économie-là, il a été parmi nous, il nous a accompagnés déjà depuis des centaines d'années, pas plus que 500 ans, mais en tout cas 500 ans. Et donc c'est très difficile d'imaginer des alternatives. Par contre, les alternatives sont partout parmi nous. Et c'est ça aussi qui est magique. Donc tu dis, on est tous comme ça, on fait tous comme ça. Mais en fait, les grands progrès sociaux, ils ont aussi été accomplis par des alternatives aux énergies fossiles, des alternatives au pouvoir. Et donc, on a parmi nous ces alternatives qui non seulement existent, sont non seulement possibles, mais dont nous dépendons pour notre vie beaucoup plus que nous dépendons de cette économie mortifère. Et ça, c'est aussi vraiment, pour moi, ça c'est aussi très positif, mais il faut les reconnaître, il faut vouloir travailler dedans, il faut les rendre dominantes. Et ces alternatives, c'est autour du social, c'est autour des communs, c'est autour des choses qu'on partage. Donc toi, par exemple, tu crées quelque chose et tu le partages sur YouTube. On peut partager des choses, on peut partager la production, on peut travailler les uns pour les autres sans contribuer à faire des profits pour des grandes multinationales, pour Jeff Bezos, etc. Mais il faut reprendre nos droits démocratiques sur l'économie. Et dans mon nouveau projet, on a été financé, on a eu le plus gros projet européen financé juste cette année sur les alternatives radicales à notre économie actuelle, c'est-à-dire des alternatives radicales post-croissantes. On va parler beaucoup de démocratie économique, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on donnerait tous les droits au marché, pourquoi est-ce qu'on lui donnerait des droits de roi ou de dieu ou d'empereur. Il faut que nous reprenions nos droits sur le marché, sur notre économie, sur comment nous utilisons notre travail et nos capacités pour créer un avenir différent les uns pour les autres. Et ça, je pense que c'est la chose la plus belle possible, c'est-à-dire que nous savons que c'est possible. On ne sait pas encore toutes les étapes pour y arriver, mais on sait qu'en tout cas, on a des pistes.
C'est merveilleux ce que tu dis et ça m'inspire tellement. Et à la fois, j'ai toujours un petit démon qui arrive en me disant, je suis sur YouTube, est-ce que je suis vraiment capable de sensibiliser? Alors, les commentaires et beaucoup de retours que je peux avoir de la chaîne, et je ne m'attendais pas en étant ici à Beyond Growth que autant de gens connaissent Limite. Vraiment, merci. Merci du fond du cœur. Mais je me demande, est-ce qu'en étant dans un système comme celui d'une GAFAM, en étant sur YouTube, est-ce qu'au final, je ne suis pas une nouvelle fois absorbé par un système néolibéral capitaliste? Et même si je mets toute la bonne volonté de mon altermondialisme, je suis quand même dans un piège où l'algorithme peut tous, en deux secondes, me faire disparaître. Et que toutes les alternatives des personnes qui veulent créer des alternatives, bah finalement, déjà, ont peut-être peur de faire le pas, parce qu'on ne sait pas si l'herbe est plus verte dans ce monde-là, alors que oui, il l'est. Mais on a tendance à s'accrocher parfois, c'est comme une relation toxique, hein. On reste avec quelqu'un qui est toxique, on ne comprend pas pourquoi, alors qu'en fait on dit au revoir et puis ah, bah, tiens, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait ça avant, on s'accroche à ça. Mais est-ce que justement le fait d'être toujours dans un état qui fonctionne comme ça, où les taxes fonctionnent toujours de la même manière, où les factures fonctionnent toujours de la même manière, est-ce qu'au final on n'est de nouveau pas absorbé? Parce que je trouve que le capitalisme a une puissance de résilience incroyable. Mm-hmm. J'ai vu avec le Covid, je me suis dit ah ouais, il est capable de se métamorphoser. Mm-hmm. La bête, c'est difficile hein, d'en sortir de son ventre, si tu vois ce que je veux dire.
Oui, absolument. Et souvent, les personnes viennent vers moi et disent « Qu'est-ce que c'est l'unique seule chose que je peux faire moi-même qui va tout débloquer ?» Et puis, je pense que ça, c'est aussi une mauvaise façon d'y réfléchir. C'est-à-dire que dans nos stratégies, il faut comprendre ça comme une campagne avec beaucoup de facettes différentes et avec beaucoup de façons différentes d'intervenir dans un système. Alors, une des grandes penseuses dans ce domaine, c'est dans l'analyse systémique, c'est Donella Meadows, qui était l'auteur principal du rapport du Club de Rome.
Rest in peace.
Oui, et, mais elle est toujours avec nous dans sa pensée.
Ah, oui.
Et
une des choses, c'est elle qui a tout écrit en plus, hein, faut le préciser.
Oui, oui, oui.
Ce n'est pas Denise qui a écrit, c'est Donella qui a écrit tout le livre.
Et elle a aussi, elle a passé toute sa carrière à réfléchir sur les systèmes et comment transformer les systèmes. Et elle a écrit quelque chose de merveilleux qui s'appelle « Les points leviers pour intervenir dans un système ». Et justement, il y a beaucoup de points de levier différents. Il faut... Donc toi, tu es en train d'intervenir d'une certaine manière, tes écouteurs, ton audience peut intervenir d'autres manières. Et ce qui est super important, c'est juste de penser de façon créative à ces points de levier et donner des autres idées, des autres perspectives, transformer le paradigme. Donc qu'on sorte de ce paradigme de la croissance et des profits à tout prix et qu'on rentre dans un paradigme de transformation où nous nous focalisons sur les besoins humains à l'intérieur des limites planétaires. Ça, c'est un des points leviers les plus importants. C'est-à-dire changer l'état d'esprit pour que les gens puissent agir dans une autre orientation. Donc, pour ça, pour Donella Meadows, c'était un des points les plus importants. Parce qu'avec ce point levier-là, on peut faire basculer beaucoup de choses. Donc, faire tomber le capitalisme avec une chaîne YouTube, tant mieux, si tu y arrives. mais entre-temps, nous pouvons tous beaucoup changer de choses à beaucoup d'échelles différentes. Et il ne faut pas... Il faut y penser de manière stratégique. C'est très bien que tu te poses les questions. C'est très bien que nous tous, nous toutes, nous nous posons ces questions. Parce qu'autrement, si on n'est pas critique sur notre propre action et notre propre efficacité, c'est clair qu'on tombe dans l'idéologie. Hein, donc, on tombe vraiment en intégrisme, en fait. Donc, il faut qu'on continue à être critique par rapport à ça, à réfléchir par rapport à ça, à dialoguer, à avoir des questions. Mais le plus important, c'est d'essayer, de continuer d'essayer, Et Rosa Luxembourg a été citée hier soir dans cette conférence. La citation, c'était « On ne sent ses chaînes que quand on essaye de bouger. Mmh. » Et c'est uniquement quand on sent ses chaînes qu'on peut s'en défaire. Donc, en fait, il faut que nous bougions, il faut tous que nous nous bougions pour pouvoir ressentir où sont les chaînes, pour pouvoir les casser. Donc, essayer de plein de manières différentes de changer ces systèmes autour de nous pour comprendre de quoi ils sont faits, pour les transformer, pour les rendre caduques, pour vraiment créer quelque chose de nouveau.
Et puis, ça fait du bien de se mettre à l'action, en fait.
Alors, oui, je dois avouer. Donc, moi, je fais mon boulot, j'aime bien mon boulot, j'adore mon boulot. Merci mon université, merci mes collègues. Mais les matins où je me lève et je sais que j'ai pas ma petite voix, mon petit démon qui me dit « Ouais, mais tu vas au bureau aujourd'hui. » Ça sert vraiment à quelque chose que tu écrives un papier de plus, que tu donnes un cours de plus. Les jours où j'ai pas ce démon-là, c'est les jours où je vais faire de l'activisme. C'est les jours où je vais me mettre dans la rue, c'est les jours où je vais me scotcher par terre avec différents groupes. J'ai été avec Extinction Rebellion, avec Renovate, avec les scientifiques pour Extinction Rebellion, c'est-à-dire là qu'on se met en blouse blanche. Mais ces jours-là, c'est vrai que j'ai la paix dans l'âme. Et donc, c'est vrai que ces jours-là, j'ai vraiment l'impression que je peux faire bouger les choses. Ce n'est pas tous les jours, mais ça me fait très plaisir quand je peux le faire.
Julia, au début de cette vidéo, on parlait justement du fait que les scientifiques sont souvent dans leur posture, dans leur blouse blanche et ne se mouillent pas trop et qu'on en a besoin. Alors toi, tu es à l'opposé. Toi, tu rattrapes beaucoup des milliers de scientifiques qui ne le font pas. J'invite les personnes à taper ton nom éventuellement sur Ecosia ou sur Google, c'est comme vous voulez. On n'en est pas là. Tu fais partie de Scientist Rebellion. Tu l'as dit toi-même, tu as participé à des activités de Extinction Rebellion. Tu bloques des routes. Mm-hmm. Tu as été arrêté par la police. Mm-hmm. C'est des images assez incroyables, dignes d'un film hollywoodien avec des scientifiques qui sont en mode en train d'alerter. Et...
Ouais, vous savez, vous savez. Ouais, vous êtes ouf, ça. Vous êtes ouf, ça.
Ah, ouais,
c'est
bien.
Désolée. Bon.
L'action civile non violente. C'est très important parce que le gouvernement n'agit pas pour le réchauffement climatique et il nous reste très peu de temps.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, toi, tu es sorti de cette posture-là et tu t'es dit « Ok, je dois le faire » parce qu'il faut un courage immense, hein. C'est défier l'autorité en quelque sorte. C'est désobéir, c'est la désobéissance civile. C'est pas facile. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as décidé de passer le pas ?
Moi, j'ai toujours été activiste. Mes premières actions, c'était quand j'étais ado. Donc, je n'ai jamais été scientifique sans être activiste. Donc, je pense que ça aide, d'une certaine manière. Je pense que ça a aussi à voir avec mon parcours de ma famille, c'est-à-dire que mon père et puis sa famille qui ont été persécutés par les nazis en Allemagne. J'ai de la famille qui est morte à Auschwitz. Du coup, on les fâche, on ne les laisse pas passer chez moi. Mais ensuite, mon père, quand il était réfugié aux États-Unis, il avait son job là-bas, mais il s'est fait de nouveau persécuter par McCarthy parce qu'il était soupçonné d'être communiste. Donc, voilà,
beaucoup,
donc
hein.
le parcours du siècle, en fait. Donc, ouais. L'idée qu'il faut des fois un certain courage et une certaine intégrité morale pour faire face à des autorités qui bloqueraient une certaine capacité de vivre, une certaine capacité de penser, pour moi, c'est quelque chose... J'ai toujours vécu avec ça. Donc pour moi, la responsabilité scientifique, on a un privilège énorme de pouvoir réfléchir à la réalité du monde, mais ce privilège s'accompagne d'une responsabilité. Notre responsabilité, c'est aussi d'intervenir dans la société. Et les physiciens l'ont fait à plusieurs reprises. Donc je pense que les physiciens, ils ont plus un parcours historique de savoir que des fois, il faut s'engager. Par exemple, Einstein l'a fait avec la bombe atomique en essayant de dire « Non, mais vous n'avez aucun besoin de laisser tomber ces bombes sur des populations civiliennes, sur des populations civiles au Japon. » Donc, il n'a pas réussi à empêcher Hiroshima et Nagasaki, mais lui et beaucoup de scientifiques l'ont fait et ensuite se sont engagés dans le désarmement nucléaire. Donc, pour moi, ça fait partie de notre job. Ce n'est pas possible de faire un job où nous avons une responsabilité sociale de protection des autres êtres humains si on n'est pas d'accord de descendre dans la rue de temps en temps.
Ça en dit long, quelqu'un qui a le savoir comme toi, qui travaille ça, qui est entouré de gens... qui travaille ce savoir, qui publie, qui vérification par les pairs, les corps d'études, les études, les méta-analyses. Vous avez le plus haut niveau de vérité, en quelque sorte. La vérité est toujours au-delà de nos perceptions, sans entrer trop dans la spiritualité. Mais vous avez le plus haut niveau de preuve. Et quand quelqu'un qui a le plus haut niveau de preuve avec son groupe se retrouve dans la rue en train de demander de changer le système, ça veut dire que c'est la merde.
Oui, très très clairement. Et ce que j'ai peur, c'est que mes collègues pensent, donc j'ai beaucoup de collègues qui ont peur de descendre dans la rue, qui disent « Ah ouais, t'as fait ça, un peu bizarre », ou qui osent pas, qui ont peur pour leur job, etc. Et je pense, donc je reconnais cette peur, je veux pas dire qu'ils ont complètement tort, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils se trompent sur la façon dont c'est perçu. C'est-à-dire qu'ils ont un espoir que le système va fonctionner. Mais nous sommes en 2023. Notre trajectoire est désastreuse, cataclysmique. Le système ne fonctionne pas. Il faut que nous utilisions nos cerveaux aussi pour réfléchir sur ce système. Il ne faut pas simplement se dire « Ok, si je publie un super article… » J'ai vraiment des collègues qui pensent ça. S'ils arrivent à publier un super article ou arriver avec un argument super clair…
Personne ne le lit. Excusez-moi.
Mais qu'ils arrivent avec un argument super clair, qu'ils arrivent super bien expliquer, que tous les politiques vont se rendre compte de la réalité, de la gravité de la situation et transformer leur mode d'action. Ils ont vraiment cet espoir-là, que c'est leur parole qui va pouvoir convaincre et transformer cette situation. Ils ne se rendent pas compte que c'est un jeu de pouvoir, que les politiques, il y a beaucoup de politiques qui savent que c'est la réalité, mais qui sont dans un jeu de pouvoir qui les rend complices de la destruction de l'humanité. Il faut comprendre ce jeu de pouvoir et se positionner dans ce jeu de pouvoir. La question c'est, dans ce jeu de pouvoir, est-ce que moi je suis avec le 99% de l'humanité ou est-ce que je suis complice? Et du coup, comment est-ce que j'aligne mes actions par rapport à ce positionnement?
On a l'impression, souvent on dit, oui, mais on est dans un système malade. Mais en fait, non, il n'est pas malade. En fait, il est exactement en train de faire ce pourquoi il a été conçu. Les personnes dont on parle, qui peut-être sont non convaincues, ne comprennent pas, j'en faisais partie. Je t'ai expliqué, je viens d'un monde où je n'étais pas climato-sceptique, mais j'étais dans l'élan. Et c'est normal, je n'allais pas me poser de questions. Mon supermarché était toujours accessible, était toujours rempli. J'avais tous les besoins que je pouvais satisfaire, j'étais bien payé, j'avais la notoriété basée sur le divertissement. Je n'avais pas de questions à me poser. Et au contraire, j'avais confiance au système parce qu'il me faisait du bien. Il générait un petit peu tous ces stimuli positifs que je pouvais ressentir. Ah, j'ai envie de ça, je le fais. C'est le Covid, c'est le confinement qui était pour moi un élément déterminant qui m'a fait littéralement basculer. Des personnes en Belgique qui suivent cette chaîne d'ailleurs, je les salue s'ils se reconnaissent, m'ont dit que la chaîne a été la réponse à leur traumatisme qu'ils ont vécu lorsque leur maison a été emportée à Verviers et à Liège, lorsqu'on a eu des grosses inondations en Belgique et en Allemagne. J'ai des personnes qui m'expliquent, une amie qui est en Californie, qui m'a dit, c'est quand j'ai vu ce ciel rouge digne d'un film avec je ne sais pas quelle histoire, que j'ai commencé à m'intéresser à ça. C'est les chocs, tu penses, Julia, qui vont réveiller au fur et à mesure de plus en plus de monde, en sachant qu'il y a déjà des chocs en Inde et au Pakistan, etc. Mais en tout cas, dans les pays de l'OCDE, qui ont suffisamment de puissance et d'énergie pour pallier au problème, c'est des chocs qui vont faire qu'à un moment donné, à répétition, mais au moment où, il y aura beaucoup, beaucoup de chocs, et que tout le monde va se réveiller d'un coup, en fait, on sera déjà à 2 degrés, là.
Alors, justement, j'ai un petit peu peur que ces chocs, non seulement ils peuvent arriver trop tardivement pour qu'une majorité de la population saisisse la gravité de la situation, qui sera déjà trop tard, pour préserver beaucoup de choses, pour protéger beaucoup de choses. Et j'ai aussi peur que ces chocs ne soient utilisés par, on va dire...
Ce pourquoi les physiciens ont fui en 1939.
Exactement. Et qu'il y a des forces dans nos sociétés, dans nos économies, qui sont prêtes à utiliser des crises et à les utiliser à leur escient, de façon à aviver les tensions. Par exemple, quand on a des crises de sécurité, des crises d'instabilité, quels sont les secteurs qui en profitent? C'est tout de suite les barbelés, c'est tout de suite le sécuritaire, etc. Et donc moi, j'ai vraiment peur que ces crises, peut-être que ça peut réveiller certaines personnes ou faire bouger d'état d'esprit, mais ça peut aussi arriver beaucoup trop tard. Et c'est aussi notre responsabilité en tant que communicateurs, en tant que personnes qui ont une voix possible. Moi, je passe beaucoup trop de mon temps sur Twitter, mais une des raisons pour laquelle je suis là, malgré tout le désespoir de Musk, etc., c'est parce que j'ai l'impression que de temps en temps, j'arrive à atteindre quelqu'un qui n'était pas touché avant, et qu'on arrive à toucher les gens avant que leur maison brûle, avant qu'ils soient confinés par le Covid, etc. Donc ça, c'est quelque chose où je pense qu'on a aussi une certaine responsabilité pour faire en sorte de sensibiliser, de réveiller le plus de gens possible avant que les catastrophes soient trop graves.
Comment tu te sens, activiste que tu es, sur le terrain, dans toutes ces études, dans tous les résultats qui tombent, ou parfois une étude peut tomber de nulle part en parlant du forçage radiatif qui va partir en positif parce qu'on arrêtera avec les voitures électriques. On admettra des voitures électriques qui n'auront plus autant d'usure des pneus, donc moins de particules, et qui peut en fait nous amener plus à plus de 10 degrés. Je cite une étude sur laquelle je suis tombé, qui n'a pas été encore revue, etc. Il y a beaucoup d'études qui parfois, elles sont isolées, mais elles te mettent des claques un peu. Toi qui vis ça, qui dois tempérer, les camps que c'était, comment ça se passe?
Alors d'abord, je déconseille absolument de lire une seule étude, parce que justement, c'est le fort des rapports du GIEC, c'est justement qu'on a des spécialistes qui sont là, qui peuvent regarder des centaines d'études et qui peuvent pondérer la situation, voilà. Comprendre quels sont, par exemple, une certaine étude peut être très forte dans une certaine direction, mais oublier d'autres effets. Et donc, de pouvoir justement avoir cet ensemble. Et ça, c'est quelque chose que si on n'est pas expert dans le domaine, on ne se rend pas compte, en fait. Mm-hmm. Donc moi, quand je lis une étude, oulala, c'est la catastrophe, tout va mal, il y a un truc que un résultat assez choquant, je fais toujours en sorte de demander à des collègues, alors pour ça, par contre, Twitter, c'est génial, ou d'autres réseaux sociaux, demander aux collègues, demander aux autres scientifiques qui sont dans ce domaine-là, OK, ça, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est vraiment aussi grave que ça en a l'air? Comparé à cet autre résultat, qu'est-ce que ça veut dire, et d'avoir des personnes qui peuvent répondre assez rapidement. Donc ça, je pense que c'est super important. Il y a certaines personnes qui sont malheureusement peu scrupuleuses et qui se font une carrière sur l'éco-anxiété.
Oui.
Et qui aiment bien faire mousser ça. Et qui aiment bien justement dire que les choses sont beaucoup plus graves qu'elles le sont. Les choses sont archi graves dans la réalité objective où tout le monde est d'accord. Il n'y a pas besoin d'inventer, il n'y a pas besoin d'aller au-delà de ça. Et donc ça, je pense que c'est aussi important de se rendre compte qu'il y a ces personnes qui sont peu scrupuleuses, certaines qui ont eu une carrière scientifique, qui ont des titres de docteur, de prof, etc., mais qui sont malheureusement en train de verser dans un... Je ne sais pas pourquoi elles le font, mais qui sont en train d'essayer de verser dans un complotisme de doumerisme, on va dire. Voilà. Donc moi, je souffre d'éco-anxiété aussi. Une des choses qui m'a sorti de mon éco-anxiété, que je vivais de façon assez personnelle et... dure toute seule, avec mon petit gamin qui avait, je sais pas, 4-5 ans, c'est Extinction Rebellion, en fait. Donc l'arrivée d'Extinction Rebellion sur la scène, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais pas toute seule, et que j'étais pas la seule personne dans l'histoire de l'humanité à me rendre compte que les choses allaient mal, et qu'il fallait changer de direction de manière assez radicale. Et ça, c'est... pour moi, c'était un moment magique, parce que je suis venue à Londres le jour de la déclaration de la rébellion. J'étais en train de travailler au Royaume-Uni à l'époque, et puis juste de voir les gens qui sortaient du métro, puis je me disais, mais je suis pas toute seule, mais en fait... Non, mais j'étais toute seule, dans ma famille, dans mon bureau, etc. Et puis là, de me dire, OK, mais là, on peut y arriver, parce qu'on n'est pas tout seul, en fait. Il y a des autres gens qui ont envie de changer de cap, qui trouvent que c'est une priorité absolue, qui sont d'accord de se faire arrêter, qui sont d'accord de stopper les ponts, de stopper les routes, de dire stop, maintenant on veut faire autre chose. Et je pense que c'est cette autre chose maintenant qui est le plus important. Et aussi d'entendre Greta Thunberg dire l'espoir c'est l'action. Donc on peut être dans le désespoir, top, mais il faut quand même qu'on se bouge parce que beaucoup de choses vont être détruites. Il va y avoir des catastrophes horribles, des inondations, des feux, des famines. Tout ça, on le sait, des villes qui vont disparaître. Mais ce qu'il faut qu'on voie, il faut qu'on voie ce qui va être sauvé. Il faut aussi qu'on puisse voir ce que nous, à travers nos actions, on va pouvoir sauver. Certains enfants ne seront pas pris par les mers à cause de nos actions actuellement. Certaines espèces d'oiseaux, tu parlais d'oiseaux avant, il y aura certains de ces oiseaux qui vont encore être dans le ciel grâce à ce qu'on fait maintenant. Et il faut qu'on, même si c'est, je ne sais pas quel pourcentage ça va être, plus on est, plus on fait, plus grand sera le pourcentage. Mais il faut qu'on ait aussi à l'esprit tout ce qu'on peut sauver. Nous sommes nés exactement au mauvais moment, nous sommes la génération charnière entre l'ancien monde et le nouveau, et nous sommes ces générations qui ont la responsabilité de la révolution. On ne l'a pas voulu, personne ne choisirait ça. Mais on est né juste à temps pour être révolutionnaire et ça, c'est une chance. Donc cette chance-là, il faut qu'on l'assume.
C'est tellement inspirant. Je te remercie vraiment beaucoup pour cet échange qui est super riche. Il y a une question que je voudrais quand même te poser. On a parlé justement des scientifiques qui sont très doomsdayers et très apocalypse et tout ça. Mais il y a les autres, peut-être parfois des anciens prix Nobel... Et qui deviennent un peu le biais de confirmation de gens qui, après la situation avec le Covid, se disent « bon, bah, je m'emmerde, Ah bah, alors, je vais aller dans le climato-scepticisme, mais une étude est d'ailleurs sortie, je crois, faite par le CNRS, qui a démontré qu'il y a eu un transfert de toute une casse complotiste autour des vaccins. Attention, on ne va pas rentrer dans un débat, il y a des gens qui sont anti-vax juste parce qu'ils se disent « s'il m'arrive un truc, j'accepte » et qu'ils ne remettent pas en cause certaines choses. Puis il y a une caste en mode « non, non, c'est une pilule de 5G », je veux dire, il y a encore des systèmes de croyances autour de ça. Mais que ça s'est transféré vers aujourd'hui un retour du climato-scepticisme, là, tout d'un coup. Et surtout depuis que Twitter, Elon Musk a rouvert les vannes, hein, c'est, donc je crois que tu dois le sentir passer. Et on a des comptes ont été identifiés justement qui font ça, qui prennent une étude qui date de 1970, excusez-moi, qui ne te cite pas les sources, qui est complètement hors contexte, qui ne t'explique pas la méthodologie, qui commence et le problème, c'est que ça déstabilise complètement. Mais qu'en est-il de ces scientifiques aussi qui, j'ai l'impression, jouent ce jeu-là? Il y a alors, moi, je ne les connais pas, mais je les connais grâce à climato-sceptiques qui disent « Ouais, mais tel scientifique a dit ça ». Alors, je dis « Ouais, les gars, c'est pas parce qu'il y en a un qui l'a dit ». Mais je voudrais avoir ta position et ton avis là-dessus.
Alors, je trouve ça aussi assez curieux, parce que je viens d'une famille de scientifiques, et puis, eh ben, dans ma famille, c'était ben, « Quelles sont les preuves? Est-ce que j'arrive à comprendre ?» Voilà. Donc, je trouve ça assez bizarre parce que ces gens, il faut quand même qu'ils soient très, très, très anti-scientifiques pour en arriver à ce niveau-là. Par exemple, moi, j'ai un collègue à l'Université de Lausanne, pour ne pas le nommer, qui cite des études du GIEC d'il y a 30 ans, des toutes premières études du GIEC pour dire « Ah ouais, les modèles, ils ne sont pas si bons que ça, on ne sait pas trop. » Alors qu'actuellement, les rapports du GIEC disent « Les modèles sont super bons, nous savons tout, on est sans aucune… »
C'est bizarre cette méthodologie. Même mon fils de 5 ans, il a une
autre… De vouloir citer des trucs complètement dépassés pour appuyer son point, il n'a pas un peu honte, le mec? Donc ça, c'est quelque chose où je me pose un petit peu la question de qu'est-ce qui les pousse à être d'aussi mauvais scientifiques.
Parce que c'est des êtres humains aussi, et ils ont aussi des biais, même s'ils ont appris la méthode scientifique.
Donc ils ont des idéologies, je ne sais pas. Alors la personne qui a essayé de comprendre ça le mieux, je pense que c'est Naomi Oreskes, qui a écrit Les Marchands du Doute. Il y a un documentaire aussi là autour, donc je conseille à tout le monde de regarder ce documentaire qui est sur YouTube. Sur YouTube, je crois qu'il y a même une version en sous-titre français, qui est vraiment top parce qu'il montre justement ces personnes qui passent d'un argument à l'autre. Et l'argument lui-même, ils s'en fichent. Donc, ils disent le réchauffement climatique, c'est pas la faute des humains. Mais des fois, ils se sentent pas trop en confiance.
C'est les volcans.
Alors, des fois, ils disent oui, c'est les humains, mais pas seulement.
C'est le soleil.
Oui, mais c'est les humains, mais on peut rien faire. Donc, en fait, ils changent d'argument. Donc, c'est pas l'argument en lui-même, c'est pas la réalité de ce qu'ils disent qui compte pour eux. C'est juste le fait qu'on n'agisse pas sur le réchauffement climatique qui compte pour eux. Et ça, je pense que c'est un des. On a écrit un article qui s'appelait Les discours du délai. The Discourses of Delay, qui justement passait, parce que les gens passent du déni climatique au délai climatique, c'est-à-dire des arguments complètement farfelus pour ne pas agir. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que en fait, la façon dont on peut repérer quelqu'un qui est malhonnête, c'est parce qu'il passe d'un argument à l'autre, juste pour faire en sorte qu'on n'agisse pas sur le réchauffement climatique.
Mais pourquoi? Pourquoi?
Parce qu'ils sont, contrarian.
Qui sont quoi, tu dis?
Parce que contrarian, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut toujours être un peu plus cool que la réalité, être un petit peu allant...
Disruptif.
Original, je suis plus original, je suis plus intelligent que tous les autres.
C'est du narcissisme, un peu?
Oui, quelque chose dans ces eaux-là. Il y a aussi une partie idéologique qui dit parce que ceux de gauche ou parce que l'établissement scientifique existant est pour l'action, donc moi, je vais être contre. Donc, ils se positionnent plutôt en opposition à ce... Donc, eux, ils voient... des gens qu'ils n'aiment pas de l'autre côté, du coup, ils se positionnent contre. Il peut y avoir plein de raisons différentes. Par contre, ce que je dirais, c'est que les rapports du GIEC sont justement ce que nous pouvons croire d'une manière scientifique, parce qu'on a des centaines de scientifiques qui bossent dessus, il y a des milliers par derrière qui nous font des commentaires, qui nous font des propositions, des corrections, etc.
Basés sur des articles faits par des centaines de milliers de personnes.
Le processus est complètement transparent dans le sens des reviews, etc. Donc, les commentaires, les réponses, les discussions. Donc, ça, on peut avoir de la confiance. Et les personnes, ça veut bien dire que le processus est parfait, mais c'est un processus dans lequel on peut avoir une certaine confiance sur la robustesse des résultats. Quand les gens sont en train de dire « les scientifiques du GIEC sont des vendus, blablabli, blablabla », enfin, il y a tout un complotisme là autour, ça je pense que c'est aussi quelque chose où ils sont... c'est de se décrédibiliser aussi eux-mêmes. Donc je pense que la question de savoir quels sont les interlocuteurs de confiance... Il y en a sur Twitter, il y en a sur Mastodon, beaucoup d'ailleurs. Il y a des collègues qui donnent beaucoup de leur temps pour justement répondre aux questions aux questions du public pour savoir comment départager le vrai du faux. Et c'est ces personnes-là à qui il faudrait surtout parler.
Il y a parfois aussi, il y a quelque chose que j'aime bien dire quand je vais dans les écoles, c'est de dire que le scepticisme est légitime aussi à certains moments, mais en fait que ton combat est le même que celui de ceux qui n'y croient pas. Je vais t'expliquer pourquoi, c'est mon assertion. C'est qu'une personne qui est contre tout, contre la science, ça veut dire qu'elle vit dans un état, dans une situation où elle n'a plus confiance aux institutions. Et que la perte de confiance aux institutions est une résultante d'un système délétère, capitalisme, ultra-néolibéral, qui détruit les tissus humains, détruit nos relations, nous individualise, détruit l'environnement, et qu'on perd confiance dans ces institutions qu'on a l'impression nous trahissent. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on ne fait plus la différence entre une institution scientifique, une ONG, une société privée avec des capitaux, avec des conseils d'administration où il y a des politiciens, et en fait, on met tout dans le même sac et on devient un peu anti. Et c'est ce que j'essaye un peu de percevoir dans le discours climato-sceptique, c'est qu'il y a une forme, en fait, d'antisystème là derrière, qui est un peu le même combat. C'est pas la même chose, tout en sachant, virgule, que d'autres puissances géopolitiques profitent de ça pour semer la zizanie, pour avoir un avantage stratégique. Tu vois, ça se balance un peu entre ces deux courants, j'ai la sensation.
Peut-être, je pense qu'on voit probablement les choses d'une manière un petit peu... pour certains points, je peux te rejoindre, pour certains autres, moins. Je pense que ce qui est très important, c'est... moi, je vis dans un milieu scientifique, donc je peux avoir confiance en mes collègues. Donc ça, c'est aussi quelque chose où peut-être que je sais de mon expérience de vécu que mes collègues, ils font leur boulot correctement. Donc je pense que ça, c'est quelque chose où pour certaines choses, certaines institutions, on peut avoir confiance dans le travail des gens. Mais ça, c'est beaucoup plus facile quand on les connaît un petit peu, quand on sait un petit peu comment ça se passe. Et je pense que c'est aussi une responsabilité de démystifier ça. Un autre point, c'est aussi de savoir quel jeu nous jouons. De dire, donc moi, je suis d'une certaine manière anti-système, c'est-à-dire que je critique les systèmes, mais je les critique basés sur une réalité observable, mesurable, et reproductible. Donc, je suis la méthode scientifique dans ma compréhension des dysfonctionnements du système et des propositions pour ce qu'on pourrait changer. Quand on se désarime complètement de la réalité scientifique, quand on commence à croire n'importe qui et n'importe quoi, qui souvent se donnent, mais c'est ça aussi, même les anti-vax aussi, les climato-sceptiques aussi, se donnent des apparences de légitimité. Donc, si on tombe dans ces panneaux-là, on commence à vivre dans une réalité complètement alternative et où on est, on n'a plus d'ancrage.
Je vois ce que tu veux dire.
On n'a plus d'ancrage dans un...
dans une réalité physique et environnementale, en fait, de ce qui se passe ailleurs.
Oui.
Et que notre expérience personnelle, on a la sensation un petit peu que c'est mon expérience personnelle négative avec l'État. En fait, reflète l'ensemble des individus qui vivent la même chose que moi. Donc, en fait, je suis légitime de dire que... est-ce que c'est un peu vers ça que...
C'est juste à dire qu'on peut être anti-système, on peut être critique, on peut proposer des alternatives, ça, c'est important. Mais je pense qu'il faut le faire sur une base de compréhension commune de ce qu'est la réalité, de ce qu'est l'histoire, et de pouvoir dialoguer sur cette base-là. Donc moi, le problème avec les climato-sceptiques ou les covido-sceptiques, etc., qui vont justement très loin, c'est qu'on n'a plus de base commune pour discuter de la réalité, parce qu'ils se sont fait un univers complètement délirant, où ils ne touchent plus d'aucune manière à la réalité. Et je pense que ça, c'est un risque assez grand. Donc moi, je ne sais pas comment rattraper ces personnes-là. Peut-être qu'eux aussi, ils leur font un choc salutaire dans leur vie pour un petit peu les rappeler à la réalité, pour les réarrimer à la réalité. Mais je pense que pour débattre, pour qu'on puisse avancer ensemble de manière protectrice, en prenant le plus grand nombre avec nous, en essayant de faire tout ce qu'on peut, il faut toujours se rappeler que nous sommes ancrés dans une réalité physique, une réalité sociale, une réalité historique, et que nous avons des bases de discussion sur la base de cette réalité. Ça, voilà. C'est très, très important.
Et que ce n'est pas une réalité que vous inventez ou que vous mesurez vite avec un thermomètre, c'est quelque chose que vous mesurez de manière macro aussi.
Oui.
Micro et macro et tout à la fois, et vérifiable.
Exactement. Et puis, on a des personnes qui sont des personnes de confiance qui peuvent nous expliquer ce qu'elles ont fait sur ces bases scientifiques, ou que ce soit au niveau des sciences sociales ou au niveau des sciences naturelles, dans les deux.
Julia, j'ai tellement encore de choses à te demander. Mais vu l'heure qu'il est, et vu qu'on est quand même, t'es attendu, t'es sollicité, et qu'on a encore du travail ici, Je te dirai à une prochaine fois. On va se revoir, on a encore plein de choses à discuter. Mais avant ça, je vais te laisser le dernier mot. À ceux qui nous regardent, qui ressentent certainement de l'éco-anxiété, ou qui sont simplement très lucides sur l'état du monde, ou autre, quel conseil tu aurais à leur donner?
Alors, le premier conseil, c'est que tu parlais d'un film hollywoodien, c'est que eux sont les bons dans le film hollywoodien. C'est eux les héros. Et puis, moi, une chose, même à mes pires moments, je peux me réveiller le matin en me disant, ou m'endormir la nuit, dormir tranquille, en me disant, je suis le pire cauchemar d'ExxonMobil. Et puis, c'est vrai, donc, de savoir que les industries fossiles, donc les industries destructrices, les instances destructrices dans notre monde nous craignent, ça donne une certaine confiance en soi, ça donne un certain espoir. Et nous avons cette capacité de faire les choses différemment. Donc, je conseille absolument la lecture de ce livre d'Amitav Ghosh. C'est probablement le livre le plus important que j'ai jamais lu de ma vie. Donc, c'est pas rien. C'est l'édiction de la muscade. Il y a des moments durs, ça peut être anxiogène dans une autre manière, mais c'est très important pour comprendre dans quel parcours historique nous situons. Et aussi de lire les écrits des personnes indigènes, des autres penseurs, des penseurs alternatifs. Moi, je connais plutôt dans le domaine anglophone, mais il y en a d'autres dans le domaine francophone. Nous ne sommes pas cette humanité-là. Nous avons en nous les graines d'un monde complètement différent que nous pouvons porter au jour, que nous pouvons porter à fruition. Nous pouvons faire ce monde alternatif. Donc nous sommes le pire cauchemar d'ExxonMobil, ça c'est déjà top, et de Total Energy, et de Shell, etc. Et nous avons ce pouvoir créatif, ce pouvoir de travailler ensemble, de collaborer ensemble pour créer des alternatives magnifiques, et je pense que ça devrait suffire à motiver. Donc nos temps ne sont pas les plus faciles, mais on a tellement de capacités.
Julia, merci d'être venue sur cette chaîne.
Waouh, je suis trop vieille pour ça, moi.
Pas du tout, au contraire, tu as très bien fait ça. Tu sais, parfois, fais-moi le point, fais le point, comme si il y a des gens déjà qui m'ont fait ça, vas-y, envoie-moi le point, comme si vous voulez me faire un check.
Ok.
Voilà, tu vois, tu ne l'as pas fait, donc tu n'es pas vieille, ne t'inquiète pas. Merci pour ce moment, mais puissant. On se reverra certainement une prochaine fois. Bonne conclusion de conférence.
Oui. Merci Vince, merci à l'équipe. Je vous vois. Il y a des autres personnes ici, ouais. Donc merci à vous tous. Et puis à une prochaine.
À bientôt sur Limite. Portez-vous bien, abonnez-vous, likez, commentez, c'est important. Petit soutien Tipeee, comme le petit sel sur ton steak VG, tu sais que toi-même tu connais. Et à bientôt, ciao ciao.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous rappelle qu'il est également disponible sur YouTube en vidéo et nous sommes aussi présents sur les autres réseaux sociaux. Retrouvez nos articles et notre actualité sur le site limite.media. Et si Limite existe, c'est intégralement grâce à vous. Vous pouvez nous aider en envoyant un don sur Tipeee ou encore PayPal.me. Mais le plus important, si vous aimez notre travail, c'est de le partager tout autour de vous. Merci et à bientôt sur Limite.
Limite.
Quelle est ta définition du réel?